Bienvenue sur la chaîne du podcast Éco-Mouvement,
le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire.
Tous les lundis, on te propose d'aborder un sujet lié à l'environnement.
Avec des invités inspirants, des scientifiques ou encore des entreprises engagées.
On t'embarque pour la saison 3.
Bonne écoute.
Bonjour à vous, je suis Mathilde et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode autour du sujet des cosmétiques. Alors, si vous êtes comme la majorité des Françaises et Français, eh bien vous utilisez en moyenne 9 produits cosmétiques chaque jour. 9, me direz-vous ? Eh bien oui, vous prenez une douche chaque jour ? Allez, le gel douche, ça fait 1. Vous utilisez votre shampoing ? Et de 2. Un petit coup de déodorant avant de partir le matin ? Ça fait 3. Envie d'enlever quelques poils à la crème ou à la mousse à raser ? Allez, 4. Bon, je m'arrête là, je pense que vous voyez le principe. Quel que soit notre âge, notre genre, nous consommons des produits cosmétiques, que ce soit pour l'hygiène, le soin de la peau, des cheveux, le maquillage ou encore le parfum par exemple. Mais savez-vous que ces produits ont un impact, à la fois sur notre santé, mais aussi sur celle de l'environnement ? Eh bien, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui ensemble. Et pour nous aider à y voir plus clair sur ce sujet, eh bien, je suis ravie d'échanger aujourd'hui avec Mélina, qui est la créatrice de La Famille Tortue, un blog et un compte Instagram traitant, entre autres, de cosmétologie et qui vise à sensibiliser à la cosmétique dite « clean ». Bonjour Mélina.
Bonjour Mathilde.
Est-ce que tu vas bien ?
Oui, super. Merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast pour parler de ce sujet qui est ô combien important à mes yeux.
Bon, et bah tant mieux, super. Alors rentrons dans le vif du sujet, Mélina. Je t'ai très très brièvement présentée. En général, je préfère que ce soit les invités qui nous disent un petit peu avec leurs mots ce qu'ils ont envie de nous dire sur LE. Alors à toi, Mélina, dis-nous qui tu es, s'il te plaît.
Eh bien, je suis passionnée de cosmétologie depuis ma plus tendre enfance. J'ai fait mes études dans ce domaine-là. J'ai travaillé aussi en tant que cosmétologue, mais pendant pas très longtemps, parce qu'à l'époque, la cosmétologie clean n'existait pas, ou en tout cas était qu'à ses balbutiements. Ensuite, je me suis reconvertie. Je suis maintenant naturopathe, spécialisée en naturo-cosmétique. Et j'anime le compte Instagram et le blog La Famille Tortue, dans lesquels j'essaye d'apprendre à mes abonnés à décrypter par eux-mêmes leurs produits cosmétiques pour ne plus se faire avoir par les marques qui usent de greenwashing et de cleanwashing. Et à côté de ça, je suis aussi fondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'appelle VeraM.
Ok, bon, très bien. En effet, on voit bien que sur le sujet de la cosmétique, on est avec la bonne personne. Je vais justement revenir un tout petit peu sur la raison d'être ou l'origine un petit peu de la naissance de cet engagement. Pourquoi avoir eu envie de sensibiliser à ce sujet de la cosmétique clean ?
Alors, j'ai toujours été un petit peu perturbée, un petit peu dans l'interrogation pendant mes études, pendant mes stages et pendant mes premières expériences professionnelles. Je ne comprenais pas forcément pourquoi on utilisait certains ingrédients dans des formulations, entre autres pour des bébés, mais pas que, hein, aussi pour des adultes, pour lesquels on savait pertinemment qu'il y avait un danger à les manipuler. Donc, on nous demandait d'avoir d'extrêmes précautions, de prendre d'extrêmes précautions pour manipuler ces ingrédients. Mais également, on savait que leur rejet, par exemple, dans les eaux usées, était très dangereuse pour la faune et la flore. Donc, je n'étais pas encore ultra sensibilisée et je ne voulais pas encore en faire mon cheval de bataille. Mais j'étais un petit peu mal à l'aise avec ça. C'est pour ça que j'ai arrêté rapidement de travailler dans ce secteur-là. Et à la naissance de mon premier enfant, j'ai tout de suite eu une prise de conscience de me dire que je ne pouvais pas, en plus sachant ce qu'il y avait dans les produits cosmétiques, utiliser sur sa peau toute neuve, toute fragile, ces ingrédients-là. Et c'est là où j'ai vraiment pris eu un énorme état de conscience sur la cosmétologie. Et au début, j'ai ouvert mon compte Instagram, pas du tout pour parler de cosméto. À la base, c'était pour parler de la parentalité sans tabou, parce que je me sentais très isolée dans ma parentalité. Je trouvais que sur Instagram, il y avait énormément de comptes parentalité, mais tout beau, tout rose, qui montraient que les meilleurs côtés, les meilleurs moments de la parentalité, et je me sentais en décalage finalement par rapport à ces gens-là. Donc j'ai ouvert ce compte Instagram uniquement pour parler de ma parentalité. Et c'est un jour où j'ai vu plusieurs influenceuses partager leur expérience dans le laboratoire d'un fameux groupe cosmétique que je connais très très bien, qui vantaient les mérites de cette marque, de leur engagement écologique, de leur engagement pour la santé, et j'ai été effarée de voir ce bullshit en fait raconté comme ça auprès de plusieurs milliers d'abonnés, puisqu'elles regroupaient toutes plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc tout accumulé ça faisait même des millions d'abonnés, et j'étais choquée de ça, et c'est là où je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Bon, à l'époque j'avais peut-être 2000, 3000 abonnés, je ne sais plus, donc j'étais un tout petit compte, mais je me suis dit tant pis, même si j'arrive à sensibiliser ces 2000 personnes, j'aurais réussi quelque chose, parce que par effet boule de neige, elles vont en parler autour d'elles, ça va venir aux oreilles d'autres personnes, donc je me suis dit bah, lance-toi, c'est pas grave, et je me suis lancée, et puis maintenant j'ai la chance d'avoir une belle communauté qui me suit, et qui par effet boule de neige arrive à sensibiliser d'autres personnes.
Merci pour ces explications très très claires. Avant de rentrer justement dans toutes les terminologies que tu as utilisées, le greenwashing, le cleanwashing, etc., j'aimerais bien qu'on recentre un tout petit peu sur la cosmétique et la cosmétologie. J'ai donné quelques exemples au début, mais est-ce que tu peux concrètement justement nous définir ce que c'est, ce qu'on entend par un produit cosmétique ?
Oui, c'est un produit qui permet de prendre soin de la peau, des dents, des cheveux, des muqueuses, de les entretenir, de les leur donner une bonne odeur. Ce n'est pas un produit qui va traiter. Un cosmétique n'a pas le droit de soigner, n'a pas le droit de traiter, mais par ricochet, quand on prend soin de sa peau, on arrive à traiter certaines choses. Donc, c'est un petit peu... on n'a pas le droit d'employer le mot traiter. Ça reste aux médicaments et à la médecine. Mais un produit cosmétique est là pour prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de ses muqueuses, d'en prendre soin ou de les faire sentir bon. Donc, comme tu disais très justement tout à l'heure, il peut y avoir les déodorants, les parfums, les dentifrices, tous les produits nettoyants, le maquillage également, les vernis à ongles, tous les produits décolorants capillaires, coloration capillaire, tout ça, ça rentre dans les cosmétiques.
Oui, donc c'est quand même une très, très grosse industrie.
C'est énorme.
Et donc aujourd'hui, la cosmétique traditionnelle utilise des ingrédients, tu nous as parlé d'ingrédients qui ont donc des impacts. Tu parlais d'impact sur la santé, puisque visiblement, vous n'aviez pas le droit d'utiliser certains produits sans précaution. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur les impacts de l'ensemble de cette cosmétique traditionnelle, conventionnelle ?
Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a des impacts à plusieurs niveaux. Il y a déjà au niveau de la santé des personnes qui vont fabriquer ces ingrédients-là. Alors, comme toujours, on va me dire, oui, mais il y a des précautions qui sont prises. Certes, mais tous les fabricants n'ont pas les mêmes degrés d'exigence et de conscience, même s'ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, il y a déjà l'impact des personnes qui vont travailler sur les produits cosmétiques. Il y a la production de certains produits cosmétiques, parce que la plupart du temps, les gens ont la vision de la fourmi et pas la vision de l'aigle. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de la hauteur pour voir les choses dans leur ensemble. Ils vont uniquement voir leur petit flacon de 50 millilitres en disant « mais ça, enfin, ça, bon, ça va tuer personne ». Non, mais ce flacon de 50 millilitres, il n'a pas été créé uniquement pour soi. Il y en a plusieurs centaines de milliers de tonnes qui sont produits chaque année, voire même des millions de tonnes, parce qu'un ingrédient cosmétique n'est pas utilisé que pour une seule marque. Il est utilisé dans des centaines, dans des milliers de marques. Donc au final, il y a certains ingrédients qui vont avoir un impact sur l'écologie de par leur mode de fabrication. J'ai en tête par exemple tous les produits éthoxylés, donc dont on fait intervenir de l'oxyde d'éthylène, qui est un gaz toxique, mutagène, cancérigène et polluant. Et en fait, pour fabriquer cet ingrédient-là, on est obligé d'utiliser de l'oxyde d'éthylène. Donc on se rend compte de l'impact écologique. Là, c'est-à-dire que l'ingrédient fini qui a été fabriqué avec de l'oxyde d'éthylène, tout dépend son niveau de pureté, va être plus ou moins problématique, puisqu'il peut être contaminé au dioxane qui, lui, est aussi cancérigène. Après, certains fournisseurs qui sont quand même de bonne foi et qui vont bien purifier l'ingrédient final. Donc, l'ingrédient peut être irritant, etc., mais au niveau écologique, c'est ce qui se passe en amont, en fait. Ouais. Donc, il ne faut pas regarder juste au bout de son nez, il faut voir plus loin. Ensuite, il va y avoir les ingrédients qui vont être dits écotoxiques, c'est-à-dire que quand ils sont mis en milieu naturel dans les nappes phréatiques, quand ils sont rejetés dans les eaux usées, vont avoir un impact sur la faune et la flore aquatique à plus ou moins long terme. Il peut y avoir des impacts immédiat, c'est-à-dire l'organisme rentre en contact avec cette substance et décède ou en tout cas a des problèmes. Ça peut être à plus ou moins et long terme, ça peut vraiment rester dans le temps, voire même très long terme. Et pareil, il ne faut pas voir juste sa crème en se disant « mais je mets ma crème, ça ne va pas avoir d'impact ». Mais on se douche.
Ouais.
Donc, à un moment donné, il y a ces substances qui vont repartir dans les eaux usées. Dire oui mais j'en mets, ça va, c'est un tout petit peu tous les jours, mais tout le monde se douche, enfin en tout cas j'espère, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui se douchent. Donc ce un petit peu de crème qui va être mis sur une personne, elle va être mise sur plusieurs millions de personnes et va partir dans les eaux usées, et il y a une accumulation qui se fait, et voire même certains ingrédients quand ils sont mis l'un avec l'autre peuvent créer
oui, c'est ça. Des substances. L'effet cocktail.
L'effet cocktail, exactement. Et tout ce qui va être perturbateur endocrinien, par exemple. Effectivement, de se mettre une fois un produit cosmétique qui contient un petit peu de perturbateur endocrinien, honnêtement, ça ne va pas changer notre vie, d'accord ? C'est pas un poison. On n'est pas en train de s'appliquer de l'arsenic. Tranquille. Mais c'est la répétition de cette application qui va devenir problématique. Et pour l'environnement, ces perturbateurs endocriniens, à un moment donné, sont rejetés dans les eaux usées, et ça va avoir un effet sur la faune, la flore. Et il ne faut pas oublier autre chose, c'est que les personnes qui se disent « oui, bon, ça va, c'est les nappes phréatiques, on s'en fout. » Oui, mais on la boit, notre eau. À un moment donné, l'eau, c'est un recyclage éternel. Donc, à un moment donné, on va la boire, on va manger des aliments qui vont être contaminés, on va manger, si on n'est pas végane ou végétarien, des animaux qui ont bu ou qui ont mangé des aliments contaminés, et donc après, on se fait contaminer. Donc, c'est l'arrosage.
C'est un cycle.
C'est ça. Donc, on récupère finalement ce qu'on a produit. Donc, essayons au maximum de se sensibiliser à ce sujet. L'idée n'est pas de se culpabiliser, parce qu'encore une fois, la cosmétologie clean, à 1000%, ça n'existe pas. On ne pourra pas avoir un produit clean à 1000% sans impact aucun, ça n'existe pas. Mais comme en nourriture, on ne peut pas avoir zéro impact.
Je me permets, je rebondis parce qu'on a défini le cosmétique, on a utilisé le mot clean pour celles et ceux qui peut-être n'aiment pas les anglicismes. Qu'est-ce que tu entends par une cosmétique clean ?
Ben, c'est une cosmétique qui a le moins d'impact possible sur l'environnement et sur notre santé, donc la santé de l'utilisateur et la santé de la planète. Mais encore une fois, il ne faut pas se pousser non plus à l'extrême, parce que, soyons clairs, par exemple, on va prendre quelque chose de tout bête, de l'huile d'olive, d'accord ? À part avoir son propre olivier chez soi, de ne mettre aucun engrais, de ne jamais l'arroser, il vit sa vie, de récolter à la main les olives et d'aller les presser dans un vieux moulin qui n'utilise pas d'électricité, où on a utilisé par exemple la force de ses petits bras pour faire tourner le moulin, pour en extraire l'huile. Là, à la rigueur, je me dis, l'impact, il est quasi nul. Ok, mais qui fait ça ?
Qui a un moulin au fond de son jardin ? Qui a un olivier au fond de son jardin ? Ouais. Oui, donc en gros, pas d'exemplarité, mais juste essayer déjà de faire mieux.
Exactement ça. Et oui, le terme de clean, au début, je l'employais beaucoup parce que ça n'existait pas. Enfin, personne n'employait ce terme clean. Maintenant, tout le monde l'utilise et c'est ce que j'appelle le clean washing. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui va se dire bio, naturel, tout génial, on est les meilleurs copains de tout le monde. Et au final, quand on regarde les composants, c'est pas clean, non. On a des composés éthoxylés. Le SCI, par exemple, le sodium cocalisethionate, qui est ultra utilisé dans les produits dits sans savon,
Qu'on nous vend aussi pour faire du do it yourself si on veut faire ses propres produits.
Et ça, c'est un composé éthoxylé, c'est-à-dire que c'est un ingrédient qui a nécessité l'utilisation d'oxyde d'éthylène pour sa fabrication.
Dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça, celui qui est mutagène.
C'est ça. Donc, est-ce que la marque peut dire qu'elle est clean? Ben voilà. Et là, se pose le problème de la définition du mot clean, parce qu'en fait, il n'y a pas de réglementation sur ça. Tout le monde dit un petit peu ce qu'il veut. Clean, ça veut dire propre, oui, en anglais. Donc, un cosmétique qui est propre, finalement, c'est propre à chacun.
Ouais.
Tout le monde a sa propre définition de propre. Et pour moi, c'est un produit qui n'aura pas d'impact sur le consommateur, donc pas de cancérigène, pas de perturbateur endocrinien, pas de mutagène, pas, enfin, tous les CMR, pas d'allergisant, pas de... d'irritant trop sévère, etc. Et en même temps, qui aura le moins d'impact possible sur la planète, sachant que, encore une fois, bah, même de l'huile d'olive dans notre produit cosmétique aura un impact sur la planète. Enfin, tout a un impact. Donc, faire attention et ne pas être dans la surconsommation.
Oui.
Et ça, c'est le gros problème aussi.
Donc, en gros, on pourrait aussi appeler ça une cosmétique responsable, une cosmétique consciente où, consciemment, on va pouvoir choisir des choses plus vertueuses et respectueuses.
C'est ça. En fait, c'est ce que j'aime bien dire, c'est de le faire en conscience. Mmh. Et même si on utilise parfois des produits qui ne sont pas clean, eh ben, c'est pas grave tant que c'est fait en conscience. Parce qu'il faut se soigner ou parce que c'est le seul produit qui fonctionne pour une problématique. L'idée n'est pas de vivre de manière négative, hein, c'est-à-dire de ne pas se flageller en disant « Oh mon Dieu, j'ai utilisé ça !» Oui, mais bon, si ça fonctionne, c'est bien, mais de le faire en conscience, c'est-à-dire de ne pas en abuser, de ne pas le faire sur le trop long terme, etc., etc., et d'éviter surtout de le vendre comme étant un produit clean. C'est-à-dire, moi, j'ai plus de problèmes, et c'est plus contre ça que je me bats, entre guillemets, sur mes réseaux sociaux. Ce n'est pas tant contre les utilisateurs qui aiment utiliser certains types de produits. C'est plus contre les marques qui font croire aux utilisateurs que ce produit est clean, et écologique, et éco-responsable, et trop bien.
Et sur le coup, justement, rentrons peut-être un peu dans le vif du sujet, essayons d'outiller les consommateuristes pour essayer de lutter contre ça, c'est ce que toi tu essayes de faire. Comment est-ce que, si là il y a des auditeuristes qui d'un seul coup se sentent intéressés par le sujet et engagés, ont envie d'agir parce qu'elles se rendent compte de tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut commencer? Par quoi?
Alors, déjà... se dire que les labels bio, c'est pas la panacée. Ça veut pas dire qu'on a un c'est pas parce qu'il y a un label bio que le produit est exempt de toute substance problématique et sera parfait. Non, mais c'est un petit peu le système de l'entonnoir. Donc, déjà, on choisit ses cosmétiques bio puisque le cahier des charges des labels bio évince quand même un maximum de produits, d'ingrédients problématiques comme les dérivés de la pétrochimie, etc. Donc tout ce qui nécessite l'utilisation de pétrole pour fabriquer l'ingrédient. Mais ça ne va pas enlever d'autres ingrédients qui, eux, sont problématiques. Donc on fait le système de l'entonnoir. Ensuite, il y a les applications de scan mobile pour lesquelles j'ai un avis mitigé. Il ne faut pas s'y fier comme une vérité absolue. C'est-à-dire qu'il y a certaines applications dont les marques se vantent d'être telle application OK ou 100% sur cette application. Mais les applications, ça reste des algorithmes. C'est-à-dire qu'ils mettent des notes ou qu'ils mettent des pourcentages ou des appréciations en fonction d'un algorithme qui va juger ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un ingrédient qui est très problématique dans le produit, mais ça va rester en excellent. Parce que le reste de la composition, il y a beaucoup d'autres ingrédients qui sont bien. Mais est-ce que c'est excellent de se mettre un perturbateur endocrinien sur soi ou sur son bébé? Je ne pense pas.
Oui, puis c'est des critères qui ont été choisis par l'algorithme aussi. C'est
ça. Et comme c'est devenu un argument marketing maintenant d'être telle application OK ou d'être 100% sur telle application, ben, on peut se poser la question de la fiabilité finalement et de l'intérêt qu'ont les uns et les autres de mettre certaines bonnes notes. Je ne dis pas Je ne sais pas, mais on peut se poser la question. Voilà. Moi, en tout cas, je me la pose. Il y a d'autres applications qui sont un peu plus fiables. Faire attention, parce que pareil, il y a des applications qui ont été... Une application qui a été lancée par la FEBA, qui est le syndicat des cosmétiques dites conventionnelles. Est-ce qu'ils ont intérêt aussi à aller descendre certains ingrédients qui sont ultra utilisés par les marques qui sont affiliées à eux ? Donc, voilà,
il y a une question d'objectivité qui se pose, oui.
Voilà, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'utiliser 3-4 applications. Alors oui, c'est un peu plus laborieux que se fier à qu'à une seule, mais ça permet de voir, parce que si sur une application, c'est 100%, que sur une autre, il y a une note de 12 sur 20, c'est déjà, ok, on est 100%, 12 sur 20. Et que sur l'autre, on est avec une note de 10. Bon, on peut se poser des questions. Et l'idée, c'est toujours de regarder les ingrédients. Donc, cet entonnoir, c'est déjà aller dans le bio. Ensuite, scanner ces produits avec plusieurs applications de scan. Et ensuite, c'est d'apprendre, donc pas la totalité des milliers d'ingrédients qui existent au monde dans la liste Inkey, c'est juste pas possible. Mais déjà, avoir conscience qu'il y a une liste Inkey et qu'elle est obligatoire. C'est une nomenclature qui est...
Ce que j'allais te demander, est-ce qu'on peut juste faire une petite aparté sur Inkey pour celles et ceux qui ne connaissent pas ?
En fait, c'est la nomenclature internationale de dénomination des ingrédients cosmétiques. C'est-à-dire que partout dans le monde, où qu'on soit, il y a cette liste Inkey. Et ce sont des ingrédients qui sont soit en anglais, soit en latin. Si c'est en latin, c'est que c'est le nom scientifique de la plante, le nom botanique. Donc, on est plutôt bon. D'accord, c'est de l'huile d'olive, le Allianthus anuside oil par exemple, c'est pour les graines de tournesol. Voilà, on a des noms latins, donc ça généralement c'est plutôt bien cool quand il y en a. Les noms anglais, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, parce qu'il y en a qui vont être bons, mais il y en a qui ne vont être pas bons. Et c'est là où il faut, oui, ça demande un peu plus du travail que de simplement on nous dise c'est super génial à acheter, et c'est là qu'il faut se responsabiliser aussi en tant que consommateur, c'est de apprendre quelques ingrédients qui nous posent problème. Par exemple, se dire, bon, pour moi, les parabènes les huiles minérales, parce que c'est vraiment dérivé du pétrole, pour moi, c'est vraiment pas OK, ça, je n'en veux pas sur ma peau. Et bien, c'est d'apprendre tout ce qui est méthyle, parabène, etc., donc tout ce qui finit par parabène, et de se dire, OK, donc il y a minéral oil, paraffidum, liquidum et vaseline. Par exemple, se dire, on prend ces trois ingrédients et on se les met bien en tête. Et au début, on va regarder ces cosmétiques juste en se focalisant sur ces ingrédients-là, d'accord ? Ensuite, c'est de prendre, une fois qu'on les a bien, ces trois ingrédients, c'est d'en en rajouter un, puis en rajouter un, puis en rajouter un. Et au final, on se retrouve très rapidement avec une liste de 20, 30 ingrédients.
Mais y aller petit pas par petit pas, en fait.
C'est ça, parce que sinon ça peut faire peur de se dire qu'on va prendre 100 ingrédients et c'est impossible, et puis c'est des mots qui ne sont pas dans notre vocabulaire habituel, c'est des polyquaterniums, c'est des mots qui font peur, enfin c'est sodium cocolisothionate, et puis il y a le sodium cocolglutamate, lequel est clean, pas clean, enfin c'est un petit peu compliqué. Donc c'est s'en prendre quelques-uns et puis d'y aller étape par étape et de se dire que au départ, on va forcément faire des erreurs. Alors, est-ce que c'est des erreurs ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on va forcément parfois se tromper, tomber dans le panneau de certaines marques. Mais ce n'est pas grave. Et au fur et à mesure, on va affiner comme ça son cahier des charges. Et puis, ce qui est assez simple, c'est aussi de connaître quelques marques qui sont vraiment clean, bien dans tous leurs produits et de naviguer en fait, entre ces marques-là. Comme ça, au moins, on est un peu... sûr, même s'il faut toujours vérifier, parce que parfois il peut y avoir un produit pas clean dans une marque qui est clean. Mais c'est voilà, de rester avec ces petites marques fétiches au début avant d'aller explorer le reste du marché.
Ouais, donc pour commencer, si je récapitule un petit peu ton entonnoir, c'est déjà du bio. Donc même si les labels bio, les labels officiels ne sont pas la panacée, c'est déjà bien du bio. Après, ce que tu nous as dit, c'était d'utiliser, si on peut, plusieurs applications. Et puis, on a également ensuite un peu notre cerveau à nous qui va nous aider en essayant d'identifier certains ingrédients, avec prioritairement, visiblement, quand même, de ce que je comprends, c'est les ingrédients en latin. Donc tout ce qui va se terminer par us, hum, ae, etc. Parce que ça veut dire que ce sont les noms botaniques, donc scientifiques des ingrédients, donc forcément des ingrédients plus naturels. Et puis identifier certains ingrédients pour commencer à 3-4. Parmi ces 3-4 ingrédients, donc c'est tu nous as parlé de paraffine et d'huile minérale. Est-ce que ce sont les ingrédients qui sont universellement reconnus comme les prioritaires à éviter ou c'est des exemples que tu nous as cités et en gros, on choisit en fonction de ses préoccupations et de ses envies individuelles.
Non, c'est des exemples que j'ai cités qui me venaient en tête. L'idée, c'est de se faire son propre cahier des charges. Et c'est ce que je répète souvent à ma communauté, c'est il faut se faire son propre cahier des charges. Il ne faut pas attendre de personne, de moi ou de n'importe qui d'autre, de se faire dire qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer. C'est pas possible. C'est comme en alimentaire. On peut pas attendre de quelqu'un que quelqu'un nous dise ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il faut aussi aller chercher nous-mêmes les informations. Il y a des personnes qui vont dire ben moi tous les produits venant des animaux c'est non parce que je suis végane et parce que même si je suis pas végane pour moi c'est non. Moi par exemple c'est mon cas, je suis pas végane. Je suis plutôt flexitarienne donc je mange encore un petit peu de viande et de poisson très très occasionnellement. Mais dans mes produits cosmétiques, je refuse toute substance qui vient des animaux. Et donc, finalement, ça me permet de faire mon cahier des charges. Mais dans ces substances qui viennent des animaux, j'ai quand même un bémol sur le miel.
Ok.
J'utilise quand même du miel parce que ça a des merveilleuses vertus et je prends mon miel de mon petit producteur qui est à 1 km de chez moi et dont je connais les modes de production et c'est top. Voilà, c'est pour ça de je me suis pas dit non, moi je veux aucun produit venant des animaux, donc le miel c'est non, et puis tant pis, j'en utilise pas. Non, je me fais mon cahier des charges, toute seule comme une grande, et c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est de se dire. Bon, moi, les dérivés de pétrole, ça n'a pas l'air d'être bon. Oui, c'est pétrole, c'est pas cool, mais bon, je sais pas. Moi, c'est vraiment les cancérigènes, quoi. Enfin, les trucs. Moi, j'ai eu un cancer, je veux surtout pas de cancérigène. Eh ben, c'est d'aller farfouiller, d'aller regarder. À chaque fois qu'il y a un ingrédient qui ressort comme étant un CMR, donc cancérigène mutagène reprotoxique, eh ben, de se le noter dans un petit carnet et de se dire, ah oui, ça, je me souviens, ça, c'était cancérigène, etc. Et d'aller toujours vérifier les sources, d'aller ça demande de l'éducation par soi-même et je pense que c'est hyper important. C'est tellement mieux que d'avoir quelqu'un qui nous mène dans la bouche tout cru les informations.
Ouais, c'est ça, automatiser un petit peu, autonomiser, pardon, un petit peu les personnes, quoi. Et puis c'est bien ce que tu dis en fait. Pas de jugement, chacun, chacune son cahier des charges. Déjà juste être conscient de ce qu'on fait, faire ses choix en conscience, sans entre guillemets bêtement acheter parce que c'est joli, parce qu'on nous l'a dit, etc. Mais parce que nous, on le veut, ça nous est important.
C'est ça, et puis faire très attention parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle en marketing le storytelling, qui est très important en marketing quand on vend une marque, c'est l'histoire autour de la marque. C'est j'ai eu une maladie et d'un coup je me suis dit qu'il fallait que je crée le produit qui n'existait pas, bon qui existait, hein, mais juste là le coup de com' est très joli, ou oh là là, mon enfant est né et j'ai dû trouver ça. Voilà, faire attention au storytelling parce que on peut s'émouvoir, on peut se dire ah oh, mais c'est génial, ils ont une super démarche, mais quand on gratte un petit peu les compositions, ben ça colle pas. Ça colle pas avec l'idée première du produit. L'idée était bonne en termes de marketing, ouais, en termes de commerce, c'était génial. Mais en termes de réalisation des produits, non, on peut mieux faire. Et ça, il faut vraiment faire attention à pas se laisser embarquer dans une jolie histoire, mais dire, OK, l'histoire est jolie, c'est cool, mais il y a sûrement des équipes derrière qui sont là pour faire vendre le produit parce que créer un produit cosmétique, si c'est pour pas le vendre, ça sert à rien. Bah, donc, oui. Et je le dis, et pourtant, j'ai moi-même ma propre marque de cosmétiques. Et pourtant, je le dis de faire attention à ce qu'on nous dit. Que ça soit une marque, même si c'est vu à la télé, dans une émission, même si c'est vu dans une pub, dans un magazine, chez des influenceurs. Parce que pareil, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influenceurs. Maintenant, ce n'est pas que des gens qui ont des millions d'abonnés. Il peut y avoir des micro-influenceurs, des tout petits, des personnes même qui ont 2000 abonnés. Ce sont quand même des influenceurs à partir du moment où elles parlent de produits sur leur réseau. Et ces personnes-là ne sont pas au courant, ne savent pas et se fient uniquement aux belles paroles des marques. Et les marques, la plupart du temps, si elles ont énormément de budget pour communiquer sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles ont du budget. Et elles ont eu ce budget, voilà. Soit elles ont des fonds, soit elles ont... ça peut, hein, il y a de très très jolies marques qui ont très peu de budget, mais qui arrivent quand même à collaborer avec des influenceurs parce qu'ils croient en leur projet. Ça, c'est pas ça que je juge, mais il y a des marques où d'un coup, en fait, elles naissent pour être vendues comme ça. C'est-à-dire que leur but premier, c'est des coûts de formule qui sont très faibles, avec des prix qui sont astronomiques par rapport aux formules, et pour avoir du budget pour pouvoir balancer sur tous les réseaux sociaux et du coup faire davantage de visibilité et davantage de ventes. Donc faire attention, les produits qui sont vendus sur Instagram, petit red flag, il y en a des très jolis. Moi-même, je travaille avec des marques hein, sur mon compte Instagram. Je ne peux pas dire que tout le monde est... et dans le même panneau, dans le même panier, parce que bah, voilà, mes partenaires sont top. Mais faire attention, dès qu'on voit une marque sur Instagram, on...
Double alerte, quoi.
Ouais, on se dit, OK, je vais quand même aller vérifier les compos. Et petit exemple qui s'est passé hier, j'ai une de mes abonnées qui m'envoie la liste soi-disant Inky d'un produit en me disant, mais est-ce que c'est une liste Inky, ça? Je dis, mais pas du tout. Ils ont fait un truc, mais c'est, enfin non, c'est écrit en français, anglais, enfin c'est n'importe quoi. Je dis là, tu t'es posé les bonnes questions. Bravo, tu as eu la bonne alerte en fait. C'est, tu as vu que c'était ni écrit en anglais ni en latin. C'était, j'ai dit là, fais attention. Peut-être que c'est clean, peut-être qu'ils ont juste une mauvaise communication, même si c'est illégal hein, de le faire. Mais elle a eu les bons réflexes et c'est ça en fait que j'attends, enfin que j'attends, non j'attends rien du tout, je suis personne pour attendre quelque chose de mes abonnés, mais je veux dire, c'est ça que j'ai envie de leur inculquer, c'est cette autonomisation, cette envie d'apprendre par eux-mêmes et de pouvoir dire stop au greenwashing et au cleanwashing.
Écoute, Mélina, c'est parfait. Stop au greenwashing et au cleanwashing. On va essayer de s'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais si justement les personnes veulent aller plus loin, tu peux les autonomiser grâce à tes comptes. On mettra toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode, donc ton blog et ton compte Instagram. Et puis, le mot aussi, c'est de chercher un peu tout seul, c'est ce que je comprends. Merci beaucoup, Mélina.
Et à toi.
Et puis bah merci à vous, chers auditeuristes, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère, comme toujours, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé et qu'il vous donnera envie d'agir et d'aller plus loin sur le sujet. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi. Cela nous soutient énormément.
Tu peux aussi nous faire un retour en nous laissant un avis.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À très vite.